Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
If you're even good, where anyone at all...
We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This is ABC Radio. We're going to stand by for more details on the incident in Dallas. Now we return you to your regular program.
Ils sont repartis en musique après?
Oui, absolument.
Invraisemblable, j'ai la chair de poule,
ouais,
Christian
écoute,
Page.
Tu dis, c'est le premier bulletin, c'est le bulletin de ABC, c'est le premier bulletin qui a annoncé ces coups de feu tirés sur la limousine du président. Écoute, c'est sûrement l'un des événements là, dans l'histoire moderne, l'un des événements les plus marquants.
Tout à fait.
Parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont jouer là-dedans. Bon, je te rappelle un peu les événements parce qu'on va souligner dans le courant de la semaine le 50e anniversaire de l'attentat contre le président. C'était le 22 novembre 1963.
Mais 55.
Ouais, le 55e anniversaire, oui, oui. C'est OK, excuse-moi.
Oui. J'ai dit quoi? Pas bon en maths là, mais t'as dit 50.
Ah, pardon, c'est le 55e anniversaire. Et effectivement, cette histoire-là a marqué pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'assassinat du président, on n'aurait jamais imaginé ça. Deux jours plus tard, et je vais revenir sur ces événements, on va assassiner celui qu'on présume être l'assassin du président, Lee Harvey Oswald, et ça devient le premier meurtre en direct à la télé. Donc, les journalistes étaient présents, Oswald est amené dans les locaux, on le transfère des locaux de la police de Dallas vers la prison du comté, et voilà qu'un homme se rue sur lui, Jack Ruby, avec un pistolet à la main, et abat Oswald devant les caméras de la télévision. Premier meurtre en direct. Et ensuite, ce qui va marquer, bien sûr, on a le président avec toute une campagne un peu, disons, de propagande. On le voyait souvent, il essayait de projeter l'image du bon père de famille. Hein, jamais personne n'avait autant exploité cette image. On le voit, lui, à la Maison-Blanche avec ses enfants.
La famille parfaite, toi, oui.
C'est la famille parfaite. Et les images terribles tournées par Abraham Zapruder où on voit le moment où le tir mortel atteint Kennedy à la tête, qu'on a vu des milliers de fois, mais qui à chaque fois nous donne des frissons dans le dos. Donc, on est ce 22 novembre 1963. Il est exactement 12h30. Kennedy se trouve au Texas pour une visite éclair. Il faut savoir qu'il n'est pas très populaire au Texas. Sa cote d'amour est en baisse. Il décide donc de faire ce voyage éclair, même si des proches conseillers lui ont dit « Tu devrais peut-être pas faire ça à ce moment-ci ». Donc, il y avait déjà un peu une inquiétude,
il y avait
une tension. Donc, Kennedy décide d'aller quand même faire ce voyage éclair. Il doit prononcer ce 22 novembre, sur l'heure du dîner, il doit prononcer un discours dans le centre-ville de Dallas devant des hommes d'affaires. Il décide, c'est une belle journée, il décide donc qu'on va retirer le toit de la limousine présidentielle dans laquelle il occupe lui et Jack. Il y a également le gouverneur du Texas, John Connolly, qui est là avec son épouse, et bien sûr un homme des services secrets et le conducteur de la voiture. Donc on s'engage, on arrive sur Daly Plaza, qui est une importante intersection de Dallas, qui est ceinturée par plusieurs rues, dont Elm Street. Et au moment où la limousine tourne, il est 12h30 très précisément, une première détonation se fait entendre. Les gens dans la limousine, et en particulier le gouverneur Connolly, va dire « J'ai eu l'impression que c'est une pétarade, un peu comme un motard de la police. » Il se tourne à ce moment-là, il a l'impression que le bruit vient derrière lui, derrière son épaule droite, et ensuite, la deuxième détonation. Hein, c'est bang, bang, bang. Donc, un coup, une petite période
secondes,
et
ouais.
Deux coups rapprochés. Le deuxième coup atteint Kennedy à la gorge. Les images sont terrifiante. On le voit porter les mains à la gorge. Cette balle va traverser la gorge de Kennedy, traverser le fauteuil devant lui, atteindre le gouverneur Connolly. Et ensuite, une seconde plus tard, l'autre balle, le tir mortel qui l'atteint et qui lui fait exploser le crâne.
Plusieurs se sont demandé comment il se faisait qu'entre le premier et le deuxième coup de feu, comment il se fait qu'on n'ait pas protégé le président?
Parce que dès le deuxième coup de feu, le premier coup de feu, personne n'en tient réellement compte. On se demande ce que c'est. Et c'est presque paradoxal. paradoxal, au moment où les coups de feu vont atteindre la limousine, le gouverneur Connelly vient juste de se retourner vers le président. Il y a des gens, des curieux qui sont de chaque côté de la rue, qui regardent le défilé. Kennedy les salue. Et le gouverneur Connelly lui dit, « Vous voyez, monsieur le président, comment les Texans vous aiment. » Et la seconde suivante, c'est les coups de feu qui éclatent. La balle atteint Kennedy, mais le premier coup de feu passe un peu inaperçu. Le deuxième coup de feu, quand on regarde, parce que toute la séquence est saisie par Abraham Zapruder, le deuxième coup de feu qui atteint Kennedy à la gorge, on voit le chauffeur qui se tourne vers l'arrière. Et à ce moment-là, évidemment, on s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Mais le temps de réagir, la deuxième balle atteint Kennedy. Là, la limousine va accélérer, aller à l'hôpital Parkland. Mais évidemment, on ne peut rien pour le président. Il suffit de voir les images pour comprendre qu'il n'y avait rien à faire. On va attendre une demi-heure avant de révéler que le président est mort. Et là, non seulement les États-Unis, mais le monde est en état de choc. Au même moment, alors que tout ça se passe, des policiers ont envahi le dépôt de livres qui est situé au coin de Houston Street et de Elm Street, là où des gens disent avoir entendu des coups de feu. Certains m'ont parlé aussi de la butte gazonnée qui est à la droite de la limousine. On a l'impression peut-être que des coups de feu venaient de là. Mais majoritairement, les gens pointent cet édifice au coin de la rue et ils pointent une fenêtre au sixième étage, au cinquième étage, ce n'inclut que le premier, c'est le rez-de-chaussée, là. Donc il y a souvent une distorsion autour de ça. Donc, c'est le sixième étage, si on considère le rez-de-chaussée comme l'étage numéro un. Et des gens ont vu un homme derrière cette fenêtre. Donc, les policiers envahissent l'édifice. En entrant, c'est assez étonnant parce qu'ils tombent sur un homme qui se trouve près d'une machine distributrice. On dit, hey, vous, qu'est-ce que vous faites là? Et le directeur de l'équipe dit, c'est un employé ici, c'est un type qui s'appelle Lee Harvey Oswald. On dit, OK, parfait. On monte dans les étages, on arrive au sixième étage, on va trouver une espèce de fortification faite avec des boîtes de livres et derrière cet espace, un cubicule aménagé pour permettre aux tueurs de se trouver derrière la fenêtre et de tirer sur la limousine. Pour te faire une histoire courte, on va arrêter éventuellement Oswald, hein, parce que son signalement est lancé rapidement. À peu près, on arrête Oswald. Il va abattre un agent de police. Il sera arrêté. Et on attendait beaucoup de la libération des documents l'an dernier, espérant démontrer la théorie du complot. Malheureusement, ces documents, un an plus tard, les derniers documents qui devaient être rendus publics n'ont pas permis d'accréditer
la théorie du complot. Et comme tu le dis si bien, cet événement allait faire que le monde allait changer à jamais.
Absolument. Le monde est devenu autre chose.
Merci beaucoup, Christian Page. À la semaine prochaine, il est 9h56. Au retour, les informations.